Chapitre 17. Le capitaine Dobbin achète un piano. S'il est au monde un endroit où la satire et le sentiment puissent se donner rendez-vous, où le risible et le larmoyant se présentent avec le plus bizarre contraste, où l'on ait le droit de se montrer mordant et pathétique avec un parfait à-propos, c'est dans une de ces assemblées publiques dont l'annonce remplit chaque jour les dernières colonnes du Times et où chacun, pour son argent, est appelé à prendre sa part de la bibliothèque, du mobilier, de la vaisselle et des vins fins d'Épicure trépassé. Les restes de Milord Plutus reposent maintenant dans le caveau de la famille. Les statuaires taillent dans le marbre une inscription commémorative et véridique, comme on le sait, de ses vertus et de la douleur de son héritier, désormais en possession de ses biens. Quel convive de la table de Plutus peut passer devant sa maison, jadis si hospitalière pour lui, sans laisser échapper un soupir, devant cette maison qui s'illuminait de si joyeuses clartés vers les 7 heures du soir, dont les portes étaient toujours toutes grandes ouvertes, et dont les domestiques, tandis qu'on montait l'escalier garni de moelleux tapis, faisaient retentir le nom du visiteur de palier en palier, jusqu'à ce qu'il eût pénétré dans l'élégant sanctuaire où le vieux Plutus recevait ses amis. Il en comptait beaucoup. Il les traitait si bien. Combien de gens voyait-on chez lui, spirituels sous ses vastes portiques, moroses dès qu'ils en franchissaient le seuil? Combien de gens aimables et prévenants à l'envie, qui partout ailleurs se détestaient et se seraient égorgés l'un l'autre? Il avait une certaine arrogance, mais sa cuisine aurait fait avaler bien pis encore. Il était lourd et épais, mais le feu de son vin pétillait dans toutes les conversations. « À tout prix, nous aurons quelques bouteilles de son Bourgogne, » disent à son cercle ses amis éplorés. « J'ai acheté cette tabatière à la vente du vieux Plutus, » reprend l'un d'eux en la faisant circuler. « C'est le portrait d'une des maîtresses de Louis XV. Joli bijou, n'est-ce pas? Charmante miniature. » Puis on se met à causer de la manière dont Plutus le jeune va dissiper l'héritage. Dans l'hôtel, quelle métamorphose! La façade a disparu sous une enveloppe d'affiches. Tous les articles y sont inventoriés en lettres majuscules. Un tapis est pendu comme échantillon à l'un des étages supérieurs. Une demi-douzaine de commissionnaires sont échelonnés sur les marches boueuses. La cour est envahie d'hôtes basanés à la figure plus ou moins grecque qui vous distribuent des cartes imprimées et se proposent pour enchérir à votre compte. De vieilles femmes et des amateurs indécis encombrent les étages du haut, tâtant les couvre-pieds, fourrant les doigts dans la plume, retournant les matelas, ouvrant les tiroirs des chiffonniers. De jeunes et entreprenantes maîtresses de maison viennent mesurer la dimension des rideaux et les miroirs pour s'assurer qu'ils conviendront à leur nouveau ménage. M. Marteau Frappe, assis sur une grande table d'acajou dans la salle à manger du bas, agite son marteau d'ivoire et emploie tous les artifices de l'éloquence, de l'enthousiasme, de la prière, de la raison, du désespoir pour allumer les acheteurs. Il décoche un trait satirique à M. Judas sur son engourdissement, provoque du geste M. Lévy. Il implore, commande et beugle jusqu'au moment où il laisse tomber le fatal marteau et passe au lot suivant. Ô Plutus, qui aurait jamais pensé, lorsque nous étions au cercle, autour de votre large table étincelante de vaisselle, et de linge damassé, qu'on y verrait un jour figurer, en guise de plat, cet étourdissant brocanteur. La vente tirait à sa fin. Déjà on avait vendu le magnifique ameublement du salon, sorti des meilleurs ateliers. Les vins rares qui avaient coûté des prix fabuleux et avaient été choisis avec le goût que l'on connaissait à leurs possesseurs. Les services d'argenterie, d'une richesse et d'une ciselure remarquables. Quelques-unes des meilleures bouteilles, renommées parmi tous les amateurs du voisinage, avaient été achetées pour la cave de son maître par le sommelier de notre ami Osborne, Esquire de Russell Square. Un petit lot d'argenterie consistant en objets les plus indispensables avait été acquis pour le compte de jeunes agents de change de la cité. Il ne restait plus maintenant pour exciter la tentation du public que des objets de moindre valeur. L'orateur, juché sur la table, s'extasiait sur les mérites d'un tableau qu'il recommandait à l'admiration des assistants. La foule des acheteurs était loin d'être aussi choisie, aussi nombreuse qu'aux vacations précédentes. « Numéro 369 !» hurlait M. Marteau Frappe. « Portrait d'un monsieur sur un éléphant. Qui parle pour le monsieur sur l'éléphant ?» Faites voir aux amateurs, Monsieur Criarçon, qu'ils puissent examiner le chef-d'œuvre. » Un monsieur grand, pâle, à la tournure militaire, assis tranquillement sur la table d'acajou, ne put s'empêcher de rire quand Monsieur Criarçon promena ce précieux morceau sous les yeux du public. « Montrez l'éléphant au capitaine, Criarçon. Eh bien, monsieur, que disons-nous pour l'éléphant ?» Le capitaine, au lieu de répondre, rougit, se troubla et détourna la tête pendant que le vendeur renouvelait ses provocations. « 20 guinées pour cet objet d'art. 15, 5, qu'on dise un mot. Le monsieur sans l'éléphant vaut à lui seul 5 livres. » « Je m'étonne que l'éléphant ne plie pas sous un pareil fardeau, » dit un loustique de profession. « Son cavalier est assez gros pour cela. » En effet, le monsieur placé sur l'éléphant faisait l'effet d'un gros et grand gaillard. Un rire universel accueillit cette plaisanterie. « Ne dépréciez pas la valeur de mon lot, maître Lévy, » dit Marteau-Frappe. « Laissez la compagnie examiner cet objet d'art. La pose de cet intelligent animal est tout à fait conforme à sa nature. » Le monsieur en veste de Nankin, son fusil à l'épaule, s'en va à la chasse. Dans le lointain, on voit un bananier et une pagode. C'est probablement quelque endroit célèbre dans la fameuse possession des Indes orientales. Combien mettons sur ce lot? Allons, messieurs, ne restons pas accouchés ici. Une personne offrit 5 shillings. Le militaire regarda du côté d'où partait cette offre brillante. Il aperçut alors un autre officier et une jeune dame lui donnant le bras, qui paraissait se divertir beaucoup de cette scène, et à qui, en définitive, le lot fut adjugé pour 1/2 guinée. L'autre amateur fut plus surpris et plus décontenancé que jamais à la vue du couple qui lui faisait face. Il enfonça tout à fait sa tête dans son col d'uniforme et tourna le dos pour ne plus rencontrer cette vision désagréable. Nous n'avons nulle envie d'entretenir nos lecteurs des autres objets que M. Marteau-Frappe eut en ce jour l'honneur d'offrir à l'avidité du public, à l'exception d'un seul toutefois. C'était un petit piano droit qu'on avait descendu des régions élevées de la maison. Le grand piano à queue était déjà vendu. La jeune dame dont nous avons parlé le fit retentir sous ses doigts agiles et déliés, et l'officier, à l'autre bout de la table, se mit à rougir et à tressaillir. La jeune dame fit pousser par un tiers les enchères du piano, mais il y avait concurrence. Le juif de l'officier du bout de la table poussait contre le juif des acquéreurs de l'éléphant. Le petit piano fut chaudement disputé. M. Marteau-Frappe stimulait encore l'ardeur des combattants. La lutte se prolongea ainsi quelque temps, mais le capitaine et la dame à l'éléphant finirent par quitter la lice. Le marteau tomba et le crieur fit entendre ces mots « Pour M. Lévy, 25 guinées ». Le client de M. Lévy se trouva ainsi propriétaire du petit piano droit. Après cette victoire, il reprit sa position normale et, ses compétiteurs évincés jetant un coup d'œil de son côté, la dame dit à son cavalier « Eh mais, Rodon, c'est le capitaine Dobbin !» Peut-être Becky était-elle mécontente du nouveau piano que son mari avait loué pour elle. Peut-être les propriétaires de l'instrument l'avaient-ils fait reprendre, refusant un plus gros crédit. Peut-être enfin attachait-elle un prix tout particulier à celui dont elle avait voulu faire l'emplette, se souvenant du temps où elle en avait joué dans la petite chambre de notre chère Amelia Sedley. La vente avait lieu dans la maison de Russell Square, où nous avons passé quelques soirées au commencement de ce récit. Le bon vieux John Sedley était ruiné, sa banqueroute affichée à la bourse, et par suite il avait fallu procéder à son exécution commerciale. Le sommelier de M. Osborne était venu acheter le fameux vin de Porto pour le transporter de l'autre côté de la place. Quant à la boîte de petites cuillères de dessert, à la douzaine de couverts artistement travaillés et vendus au poids, 3 jeunes agents de change, Messieurs Dale, Spigot et Dale, de Threadneedle Street, qui avaient été en rapport d'affaires avec le vieillard et l'avaient trouvé bon et affable, comme tous ceux qui traitaient avec lui, envoyèrent à sa demeure actuelle ce petit débris arraché du naufrage, avec leurs compliments pour la bonne Mrs. Sedley. Pour le piano, comme il avait été à Amelia, et qu'il allait peut-être lui manquer, et que le capitaine Dobbin ne savait pas plus en jouer que danser sur la corde roide, il est probable qu'il n'avait pas fait là une acquisition pour son usage personnel. Le soir même, il fut porté dans une charmante maisonnette de l'une de ces rues baptisées des noms les plus romantiques, où les habitations ressemblent à de petites maisons de poupées et où, lorsqu'on regarde les fenêtres du premier étage, on a l'air, pour le passant, d'avoir les pieds au rez-de-chaussée. Les arbres des petits jardins qui s'étalent devant la façade de ces demeures sont couverts d'une éternelle végétation de tabliers d'enfants, de petites chaussettes rouges, de bonnets, etc. Polyandrie, polygénie. Malheur à l'oreille qui s'aventure dans ces lieux écartés. Elle sera écorchée par les notes aiguës sortant de mauvaises épinettes et du gosier de femmes qui font gémir les échos d'alentour. Tous les soirs, on voit les commis de la cité aller dans ces réduits coquets se reposer des fatigues du jour. C'était là que M. Clapp, le commis de M. Setley, avait son domicile, et c'était là que le bon vieillard avait trouvé un asile pour lui, sa femme et sa fille, au moment de la catastrophe. Joe Setley, en apprenant le malheur qui frappait sa famille, avait agi comme on devait s'y attendre de la part d'un homme de son tempérament. Il ne vint pas à Londres, mais il écrivit à sa mère de prendre chez ses banquiers tout ce dont elle aurait besoin. Ainsi, il était tranquille sur le sort de ses parents. Il n'avait plus rien à craindre du côté de la pauvreté. Ses dispositions prises, Joe Sedley alla à son restaurant de Cheltenham, aussi gai que de coutume, à sa promenade en voiture, buvant son Bordeaux, jouant son whist, disant ses histoires indiennes. Et sa veuve irlandaise l'amadouait et le flattait comme si de rien n'était. Ses offres d'argent, malgré le besoin qu'on en avait, firent peu d'impression sur ses parents. Amelia racontait que la première fois qu'elle vit son père relever la tête depuis son malheur fut le jour où il reçut de la part du jeune agent de change le paquet de couverts, accompagné de ses compliments. Alors il éclata en sanglots, alors il se mit à pleurer comme un enfant et parut plus touché que sa femme elle-même, à qui le présent était destiné. Edward Dale, le plus jeune des associés qui avait acheté ses couverts en commun, se montrait toujours plein d'égards pour Amelia, et en dépit du malheur de son père, s'offrait encore pour l'épouser. En 1820, il se maria à Miss Louisa Katz, fille de Katz, un de nos plus grands facteurs en grains, et sa femme lui apporta une belle fortune. Maintenant, il vit retiré dans l'opulence, au milieu d'une nombreuse famille, à son élégante villa de Maswell Hill. Mais la rencontre d'un excellent cœur ne doit pas nous emporter trop loin du principal sujet de notre histoire. Nous supposons que le lecteur s'est formé une trop haute idée du bon sens du capitaine et de Mrs. Rebecca pour leur jamais attribuer la pensée de faire une visite dans un quartier aussi éloigné que Bloomsbury, s'ils eussent pu soupçonner qu'ils allaient y trouver des personnes non seulement passées de mode, mais encore ruinées, et dont la connaissance devait être sans profit pour eux. Rebecca fut toute surprise de voir cette opulente demeure où elle avait jadis rencontré si bon accueil, mise au pillage par les acheteurs et les marchands, de trouver à chaque pas de sérieux souvenirs de famille livrés à la rapacité et à l'indifférence du public. Un mois après sa fuite, elle s'était souvenue d'Amelia et Rodan, accueillant sa proposition avec un rire sournois, s'était montré tout disposé à visiter George Osborne. « Excellente connaissance, Beck, » disait-il en se donnant un air narquois. « Il faudra que je lui vende encore un cheval. » Nous ferons aussi quelques parties de billard. C'est ce que j'appelle une amitié utile, Madame Crowley. Ha, ha, ha. On aurait tort peut-être de se hâter de conclure, d'après ses paroles, que Rodan Crowley trichait de propos délibérés en jouant avec M. Osborne. Il voulait simplement conserver sur lui cette supériorité que chacun est bien aise de faire sentir à son voisin. La vieille tante n'avait pas l'air très pressée de se radoucir. Un mois s'était écoulé, et M. Bowles continuait à refuser la porte à Rodan avec la même rigueur. Ses domestiques ne pouvaient pénétrer dans la maison de Park Lane. Ses lettres lui étaient renvoyées sans qu'on eût pris la peine de les ouvrir. Miss Crowley ne sortait point. Elle se sentait toujours indisposée. Mrs. Bute veillait sur elle et ne la quittait pas d'un instant. Crowley et sa femme auguraient mal de la présence assidue de Mrs. Bute. « Eh bien, je commence à comprendre pourquoi vous vouliez que je fusse toujours avec elle à Crowley la reine, » dit Rodan. « C'est une femme bien adroite et bien fourbe, » fit Rebecca avec un soupir. « Bah, laissez-la les regrets, et je serai tout consolé, » s'écria le capitaine dans un transport amoureux pour sa femme. Celle-ci, pour récompense, lui donna un baiser. Elle éprouvait un certain plaisir de la généreuse confiance de son mari. « Avec un peu de cervelle dans cette tête-là, » pensa-t-elle, « j'en aurais fait quelque chose. » Mais elle ne lui laissait jamais entrevoir sa manière de penser sur son compte. et elle écoutait avec une complaisance infatigable ses histoires d'écurie et de régiment. Elle riait de tous ses bons mots. Elle prenait le plus vif intérêt à Jack Spatterdash, dont le cheval s'était abattu, à Bob Martingale, surpris dans une maison de jeu, à Tom Cinq-Bars, qui devait courir dans un steeplechase. Rodon rentrait-il à la maison? Il trouvait Rebecca toujours vive et joyeuse. Voulait-il sortir? Elle ne le retenait jamais. Restait-il au logis? Elle jouait du piano, chantait pour lui plaire, faisait des sirops qu'il aimait fort, veillait à son dîner, chauffait ses pantoufles et inondait son âme de 1000 sons empressés. Une femme, suivant ma grand-mère, ne peut être bonne si elle n'est hypocrite. Nous ne savons jamais tout ce que l'autre sexe nous dissimule. Quelle adresse et quels artifices se cachent sous ce masque de franchise et de confiance. Combien de manœuvres sont mises en jeu pour nous plaire, nous désarmer à l'aide de ces sourires en apparence si ouverts. Je ne parle point ici des grandes coquettes, mais de ces modèles domestiques, de ces prodiges de vertu féminine. On voit tous les jours des femmes couvrir avec habileté les sottises d'un mari imbécile ou apaiser les transports d'un furibond. Une bonne ménagère commencera toujours par être une excellente diplomate. Ces prévenances avaient métamorphosé Rodon Crowley. De vétéran de la débauche, il était devenu mari très soumis et très heureux. Il était complètement brouillé avec ses anciennes habitudes. À son club, on avait demandé une ou deux fois ce qu'il devenait, puis on avait fini par ne plus s'apercevoir de son absence. Pour lui, ses soirées au coin du feu, avec une femme joyeuse et souriante, une table bien servie, avait tout le mérite de la nouveauté et du mystère. Il avait eu soin de faire son mariage sans l'annoncer dans le Morning Post. Autrement, il eût été assailli de réclamations étourdissantes de ses créanciers s'ils avaient su qu'il avait épousé une femme sans fortune. « Je ne crains point les reproches de mes parents », disait Becky en riant du bout des lèvres. Elle était résolue à ne point faire connaître au monde le nouveau rang qu'elle y prenait tant qu'il n'y aurait pas eu réconciliation avec la vieille tante. Elle vivait ainsi à Brompton sans voir personne, si ce n'est les amis de son mari, admis à l'intimité du petit couvert. Elle les enchantait tous dans ses dîners en petit comité. Une conversation pleine d'entrain, puis les jouissances de la musique, charmaient les privilégiés qui avaient part à ses plaisirs. Le major Martingale n'aurait jamais demandé à voir leur acte de mariage. Le capitaine Cinq-Bars ne tarissait pas sur le talent que la jeune maîtresse du logis déployait dans la confection du punch. Le jeune lieutenant Spatterdash, joueur enragé de piquet et fort souvent invité par Crowley, était complètement sous le charme de Mrs. Crowley. Mais la modestie et la prudence n'abandonnaient jamais la nouvelle épouse, et la réputation de Crowley comme brave à trois poils et comme jaloux achevait de protéger complètement sa chère petite femme. Il existe dans cette ville des âmes de très bonne race et fortes à la mode qui jamais ne hasardent le pied dans un salon de femmes. Cela explique comment le mariage de Crowley pouvait faire grand bruit dans son comté, où Mrs. Bute se chargeait d'en répandre la nouvelle sans être le moins du monde l'objet des préoccupations et des entretiens de la capitale. Quant à Rodon, il vivait très largement, mais toujours à crédit. Il avait un actif de dette fort respectable qui, habilement exploité, pouvait mener un homme pendant encore assez longtemps. Avec des dettes, certains industriels des grandes villes savent couler une vie 100 fois plus agréable que beaucoup d'autres avec de l'argent comptant. Un jour, en lisant la Gazette, Rodon trouva l'indication suivante. Le lieutenant G. Osborne vient d'acheter le brevet de capitaine à Smith, démissionnaire. Aussitôt, il exprima sur l'amant d'Amelia des sentiments d'estime dont la conséquence fut une visite à Russell Square. Rodon et sa femme auraient bien voulu, à la vente, se rapprocher du capitaine Dobbin et apprendre quelques détails sur la catastrophe qui avait frappé les anciens amis de Rebecca. Mais le capitaine avait disparu dans la foule et elles ne purent obtenir de renseignements que de l'un des crieurs publics. « Voyez tous ces museaux crochus, » disait Becky, son tableau sous le bras et rentrant dans le buggy d'un pas allègre. « Ne dirait-on pas des vautours après la bataille ?»« Je ne saurais vous dire, je n'ai jamais assisté à aucune bataille. » Demandez à Martingale, qui était en Espagne aide du camp du général Blazes. C'était un honnête vieillard que ce monsieur Sedley, reprit Rebecca. Je suis bien fâché du malheur qui lui arrive. Peu, agent de change, banqueroutier, c'est tout un, vous savez, reprit Rodan en chassant avec son fouet une mouche posée sur l'oreille de son cheval. J'aurais aimé à racheter, pour le leur offrir, quelque peu d'argenterie, Rodan, continua sa femme d'une voix sentimentale. Mais 25 guinées pour ce petit piano, c'est monstrueusement cher. Nous l'avions choisi avec Amelia au sortir de la pension, chez Broadwood. Il en avait coûté alors 35. Et votre, comment l'appelez-vous? Osborne, je crois. Il va tirer, je suppose, sa révérence à cette fille, maintenant que la famille est ruinée. Ça va chagriner votre petite amie, Miss Becky. Bah, on se console, dit Becky avec un sourire. Puis, pendant le reste de la promenade, ils parlèrent de toute autre chose. Chapitre 18. Qui joua sur le piano acheté par le capitaine Dobbin. Notre récit, pour un temps, se trouve mêlé à des événements et à des noms fameux et marche presque sur les brisées de l'histoire. Lorsque les aigles de Napoléon Bonaparte prirent leur vol de la Provence, où elles s'étaient abattues après un court séjour dans l'île d'Elbe, et de clocher en clocher atteignirent les tours de Notre-Dame, les aigles impériales firent sans doute peu d'attention à un petit coin de la paroisse de Bloomsbury, à Londres, où l'on était aussi préoccupé de bien autre chose que du battement de ses ailes puissantes. Napoléon a débarqué à Cannes. Une pareille nouvelle pouvait répandre la panique à Vienne, renverser les plans de la Russie, menacer l'intégrité de la Prusse, faire secouer la tête à Metternich et à Talleyrand, et enfin abasourdir le prince Hardenberg et le marquis de Londonderry. Mais qui aurait jamais cru que la fatale secousse de la grande lutte impériale dût faire ressentir son contre-coup jusque sur les destinées d'une malheureuse enfant de 18 ans, dont l'âme tout entière s'épanouissait en des pensées d'amour. Pauvre et aimable fleur du toit domestique, le souffle impétueux de la guerre va aussi vous emporter dans ces tourbillons impitoyables. Oui, Napoléon tente un coup suprême, et le dé fatal qui roule porte avec lui le bonheur de la petite Amelia Sedley. La fortune de son père fut balayée sans espoir au souffle de ces fatales nouvelles. Tout avait mal tourné pour le pauvre vieillard. Ses dernières opérations avaient échoué. Ses banques avaient fait faillite. Les fonds avaient monté quand il pensait les voir baisser. Si le succès est rare et vient lentement, tout le monde sait que les désastres sont rapides et toujours menaçants. Toutefois, le vieux Sedley avait renfermé sa tristesse en lui-même, et tout semblait marcher comme d'habitude dans cette opulente et paisible demeure. L'excellente Mrs. Sedley continuait chaque jour à se livrer sans le moindre soupçon à son active oisiveté et à ses futiles occupations. Sa fille s'absorbait de plus en plus dans une tendre et égoïste pensée, en s'isolant du monde qui l'entourait, lorsque la fatale secousse vint ébranler cette digne famille. Un soir, Mrs. Sedley préparait des lettres d'invitation pour une fête qu'elle devait donner. Les Osborne avaient eu la leur. Elle ne pouvait rester en arrière. John Sedley, rentrant très tard, s'assit sans dire mot au coin du feu, pendant que sa femme bavardait à ses côtés. Quant à Amy, elle était remontée dans sa chambre, toute triste et toute abattue. « Notre enfant n'est pas heureuse, » hasarda la mère. « Osborne la néglige. Je ne puis souffrir les grands airs de cette famille. Les filles n'ont pas mis le pied ici depuis 3 semaines, et George est venu 2 fois à la ville sans nous rendre visite. Edward Dale l'a vu à l'opéra. Edward épouserait bien cette chère enfant, j'en suis sûr. Il y a encore le capitaine Dobbin qui ne demanderait pas mieux. Mais j'ai horreur de tous ces militaires. Voyez comme George fait le beau-fils et le matamor. Il faudra apprendre à tous ces gens-là que nous les valons bien. » Encouragez le moins du monde, Edward Dale, et vous verrez. Nous aurons une soirée, monsieur Sedley. Mais pourquoi ne répondez-vous pas? Mon Dieu, qu'est-il arrivé? John Sedley quitta sa chaise pour aller au-devant de sa femme qui accourait vers lui. La serrant alors dans ses bras, il lui dit d'une voix entrecoupée : Nous sommes ruinés, Marie. Il faut recommencer notre vie, ma chère. J'aime mieux vous dire tout, tout sans restriction. En parlant ainsi, il frissonnait de tous ses membres et se sentait défaillir. C'est qu'il craignait que sa femme ne pût supporter ces nouvelles, sa femme à qui auparavant il n'avait jamais dit un mot capable de la chagriner. mais il était plus accablé qu'elle, malgré la soudaineté du coup qui frappait sa chère compagne. Après cet effort, il retomba sur son siège, et ce fut sa femme qui s'empressa de le consoler. Elle prit la main de cet honnête et excellent homme, l'embrassa, la passa autour de son cou. Puis, l'appelant son John, son cher John, son vieux mari, son bon vieux, elle lui adressa 1000 paroles, inspirées par la tendresse et l'amour. Cette voix fidèle et dévouée, ces simples caresses tenaient suspendu le cœur du pauvre homme entre un bonheur et une tristesse inexprimables, et pénétraient dans cette âme souffrante comme un rayon de joie et de consolation. Une fois seulement, dans le cours de cette longue soirée, où, assis à côté de sa femme, le vieux Sedley épancha dans son sein les douleurs concentrées du fond de son âme, et elle lui dit l'histoire de ses pertes et de ses embarras, les trahisons de ses plus vieux amis, la noble délicatesse de quelques personnes dont il ne croyait avoir rien à attendre. Une fois seulement, au milieu de ce retour douloureux sur le passé, sa fidèle épouse donna libre cours à son émotion. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle, « cela va briser le cœur d'Emmy. » Le père n'avait plus pensé à la pauvre enfant. Elle était là-haut, en proie à l'insomnie et à la douleur, seule au milieu de ses amis, seule dans la maison paternelle, auprès de bons et excellents parents. Y a-t-il donc tant de personnes à qui l'on puisse tout avouer? Pourquoi s'ouvrir à des âmes froides, insensibles, ou à des gens qui ne peuvent comprendre? Notre chère petite Amélia se trouvait ainsi reléguée dans sa solitude. Elle n'avait plus eu, pour ainsi dire, de confidente depuis le moment où elle avait des secrets à confier. Comment dire à sa chère maman ses doutes et ses inquiétudes? Ses futures sœurs semblaient chaque jour la mettre de plus en plus à l'écart. Et même ses doutes et ses craintes, elle n'osait se les avouer à elle-même, bien qu'elle en fît toujours l'objet de ses secrètes méditations. Son cœur faisait effort pour se rattacher à la conviction que George Osborne était fidèle et digne de son amour, en dépit de toutes les preuves contraires. Que de paroles d'amour lui avait-elle dites, cependant sans faire tressaillir ses fibres sensibles? Combien de soupçons trop justifiés d'égoïsme et d'indifférence n'avait-elle pas eu à chasser de son cœur? À qui cette pauvre victime pouvait-elle raconter ses luttes et ses tortures de chaque jour? Son héros même ne comprenait pas son dévouement. Ah, le courage lui manquait pour s'avouer combien l'homme qu'elle aimait lui était inférieur, combien elle s'était trop pressée de donner son cœur. Mais il était donné, et la pure et chaste jeune fille était trop modeste, trop tendre, trop fidèle, trop faible, trop femme enfin pour le reprendre. Ce pauvre petit cœur était bien froissé, bien meurtri, lorsque, au mois de mars de l'an du Seigneur 1815, Napoléon débarqua à Cannes et Louis XVIII prit la fuite. Une panique générale s'empara de l'Europe. Les fonds baissèrent et le vieux Sedley fut ruiné. Nous ne suivrons pas le digne agent de change à travers les souffrances et l'agonie de son désastre, qui aboutit à sa mort commerciale. On afficha son nom à la bourse, il abandonna ses bureaux, ses billets furent protestés. La banqueroute était flagrante. La maison et l'ameublement de Russell Square furent saisis et vendus à la criée, et la famille mise à la porte, ainsi que nous l'avons vu, se fit obligée de chercher un gîte dans le premier endroit venu. John Sedley, obligé par son indigence de se séparer de ses domestiques, ne se sentit pas le courage de leur adresser ses derniers adieux. Ces honnêtes gens se montrèrent surtout chagrins de perdre de si bonnes places. Et en somme, ils se consolèrent assez vite du départ de leur maître bien-aimé. La femme de chambre d'Amélia se livra à de longues doléances, mais elle s'en alla enfin toute résignée, en pensant qu'il pourrait s'offrir à elle une place bien plus avantageuse dans un des quartiers aristocratiques de la ville. Le noir Sambo, avec son caractère avantageux et sûr de lui, résolut d'entrer dans un hôtel. Quant à l'honnête et vieille Mrs. Blenkinsop, qui avait vu naître Joe et Amélia, dont les services dataient même du mariage de John Sedley et de sa femme, elle resta auprès d'eux gratuitement, car elle avait amassé une somme assez ronde depuis son entrée dans la maison. Elle suivit ses maîtres ruinés dans leur nouvel et modeste asile, où elle leur prodigua toujours ses soins et ses grognements de temps à autre. Parmi les poursuites qui firent à l'âme de ce bon et excellent Sedley, la blessure la plus douloureuse et la plus profonde, et qui en 6 semaines blanchirent plus ses cheveux que les soucis de 15 années précédentes, celles de John Osborne se distinguèrent par leur acharnement et leur âpreté. John Osborne avait été son ami et son voisin. John Osborne avait, à ses débuts, trouvé appui et assistance et lui avait mille obligations. John Osborne devait marier son fils à la fille de Sedley. N'en était-ce pas assez pour expliquer ses rigueurs et son animosité? Un homme a de très grandes obligations à un autre. Survient une brouille entre eux. L'obligé doit alors, par égard pour les convenances, se montrer bien plus exigeant que le premier venu, car cet excès d'ingratitude ne devient légitime qu'en prouvant le crime du bienfaiteur. Égoïste, brutal, intéressé, vous ne l'êtes pas, vous ne l'avez jamais été, mais vous êtes victime de la trahison la plus honteuse, accompagnée de circonstances aggravantes. Règle générale dont s'accommodent fort les créanciers durs et revêches. Les hommes gênés dans leurs affaires sont tous des coquins. Ils ont dissimulé leur situation, ils ont exagéré leurs chances de gain, ils ont voulu en imposer, faire croire que tout allait bien quand tout était perdu. Ils promenaient partout une face souriante, sourire bien douloureux, alors qu'on se trouve sous le coup d'une banqueroute. Ils étaient tous prêts à saisir toutes les occasions de remise, afin de retarder quelques jours de plus une ruine inévitable. C'est leur déloyauté qui est cause de tout, dit le créancier triomphant, et il insulte à son ennemi dans la détresse. C'est folie de s'accrocher à une paille, dit la froide raison à l'homme qui se noie. Vous êtes un infâme, puisqu'on voit votre nom couché sur les colonnes de la Gazette, dit toujours la prospérité au pauvre diable qui se débat dans le gouffre de la misère. Qui n'a remarqué la promptitude des amis les plus intimes et des hommes les plus honorables à se soupçonner, à s'accuser l'un l'autre de mauvaise foi, pour peu qu'il s'agisse d'une question d'argent et qu'elle tourne mal? Chacun en est là, chacun se trouve honnête, à charge que tous les autres soient des gueux. Afin d'être justifié, le bourreau a besoin de montrer un scélérat dans l'homme qu'il attache au pilori. Autrement, il ne serait lui-même qu'un misérable. Quant à Osborne, il se sentait blessé, aigri par le souvenir des bienfaits qu'il avait reçus. C'est toujours là le grand motif de haine et d'hostilité. Enfin, il avait rompu le mariage projeté entre la fille de Sedley et son fils. Comme on avait été fort loin, et comme le bonheur et peut-être l'honneur de la pauvre fille se trouvaient compromis, il fallait, pour arriver à une rupture, mettre en jeu les raisons les plus fortes. John Osborne avait besoin de faire savoir à tous que la réputation de John Sedley était des plus pitoyables. À toutes les réunions de créanciers, il affectait, à l'endroit de Sedley, une brutalité et un mépris qui achevaient de briser le cœur de ce malheureux, accablé déjà par sa ruine. Il s'opposa absolument à toute entrevue entre George et Amelia, menaçant le jeune homme de sa malédiction s'il contrevenait à ses ordres, et traitant cette pauvre et innocente jeune fille comme la plus infâme et la plus artificieuse des créatures. La colère et la haine jettent toujours le venin de leur calomnie sur l'objet détesté. C'est, comme on dit, une manière d'être conséquent. La nouvelle du désastre de son père, le départ de Russell Square, furent pour Amelia comme la déclaration que tout était désormais fini entre elle et George, entre elle et son amour, entre elle et son bonheur, entre elle et sa foi en ce monde. Une lettre grossière et insultante de John Osborne l'informa que la conduite de son père renversait tous les engagements pris entre les deux familles. Amelia reçut cette nouvelle avec beaucoup plus de calme et de résignation que sa mère ne l'avait espéré. Elle n'y voyait que la confirmation des tristes pressentiments qui l'agitaient depuis si longtemps. C'était la sentence portée contre le crime dont elle était coupable depuis plusieurs années, d'aimer trop aveuglément, trop passionnément, sans consulter la froide raison. Comme par le passé, elle renferma en elle-même ses pensées intimes. Elle n'était guère plus malheureuse maintenant, avec la certitude de ses espérances déçues, qu'au temps où, sans vouloir la regarder, elle avait devant les yeux la triste réalité. Elle passait ainsi d'un vaste hôtel à un petit réduit sans se plaindre, sans être émue. Elle se renfermait moins longtemps dans sa petite chambre, mais elle languissait en silence, et chaque jour, on pouvait signaler les progrès de son affaiblissement. L'animosité que M. Osborne avait témoignée à l'occasion du projet de mariage entre George et Amelia ne pouvait être comparée qu'au ressentiment que manifestait le vieux Sedley toutes les fois qu'il était question devant lui du même sujet. Il maudissait Osborne et sa famille comme des êtres sans cœur, sans foi, sans gratitude. Il protestait qu'aucune force humaine ne l'amènerait à donner sa fille au fils d'un tel misérable. Il ordonnait à Amy de bannir George de son esprit et de lui renvoyer toutes les lettres et tous les présents qu'elle avait reçus de lui. Elle promit d'obéir et se disposa à le faire. Elle enveloppa les quelques bagatelles qui lui venaient de George, tira ses lettres de l'endroit où elle les serrait et les relut d'un bout à l'autre comme si elle ne les savait pas encore par cœur. Mais elle n'avait pas le courage de s'en séparer. Cet effort était au-dessus de ses forces. Elle cacha ce paquet de lettres dans son sein, comme on voit une mère éplorer et cacher son enfant mort. Il semblait à Amelia qu'elle mourrait ou qu'elle deviendrait folle si on lui enlevait cette suprême consolation. Quel rayonnement de joie s'épanouissait autrefois sur sa figure à l'arrivée de ces lettres. Comme elle s'éloignait avec un battement de cœur pour pouvoir les lire sans être vue. Si le style en était glacial et froid, comme elle savait y trouver, au contraire, toute la chaleur de la passion. Était-elle courte et égoïste, les excuses ne lui manquaient pas en faveur de l'auteur. En relisant ces lettres, si peu dignes de tant d'amour, elle s'abandonnait au cours de ses rêveries. Elle revivait dans le passé. Chaque lettre marquait pour elle un souvenir. Tout le passé se pressait dans son esprit. Elle se rappelait son regard, sa voix, sa tournure, ce qu'il avait dit et comme il l'avait dit. Hélas, de toute cette affection éteinte, il ne lui restait plus au monde que ses tristes débris, et sa vie devait se passer désormais à enfouir sa tristesse dans le silence. Soyez prudente, jeune demoiselle, regardez-y à deux fois en engageant votre cœur. Prenez garde de vous abandonner à un amour bien sincère. Ne dites jamais tout ce que vous éprouvez, et mieux encore, n'éprouvez jamais grand-chose. Voyez où conduit une passion trop loyale et trop confiante. Ne vous fiez à personne. Mariez-vous comme en France, où monsieur le maire sert de confident, où les registres de l'état civil remplacent les billets amoureux. Enfin, n'ayez jamais de ces sentiments qui puissent devenir pour vous une source de chagrin. Ne faites jamais de ces promesses que vous ne puissiez pas retirer, en cas de besoin, sans qu'il vous en coûte. Suivez cette méthode si vous voulez faire votre chemin et passer pour vertueuse dans la foire aux vanités. Si Amelia avait entendu les commentaires dont elle était l'objet dans la société dont la ruine de son père la retirait brusquement, elle aurait appris la nature de ses crimes et en quoi elle avait compromis sa réputation. Suivant Mrs. Smith, on n'avait pas l'exemple d'une légèreté aussi criminelle. Mrs. Brown avait toujours condamné ses scandaleuses familiarités, et c'était une leçon qui devait profiter à ses filles. Le capitaine Osborne ne peut pas épouser la fille d'un banqueroutier, disait Miss Dobbin. C'est bien assez déjà d'être victime des escroqueries du père. Quant à cette petite Amelia, sa folie dépassait tout. Tout quoi ? Demandait le capitaine Dobbin avec humeur. Ne sont-ils pas promis l'un à l'autre depuis leur enfance ? Cette promesse n'est-elle pas aussi valable que le mariage? Qui ose proférer le moindre mot contre la plus pure, la plus tendre, la plus angélique des jeunes filles? Tout beau, William, répondait Miss Jane. Il ne faut pas monter ainsi avec nous sur votre cheval de bataille. Nous ne pouvons vous rendre raison et nous battre avec vous. Nous ne disons rien contre Miss Sedley, si ce n'est que sa conduite a été des plus imprudentes, et c'est le moins qu'on puisse en dire. Ce malheur, ses parents l'ont du reste bien mérité. Allons, William, reprit Miss Anne d'un ton moqueur, Miss Sedley est libre maintenant. C'est affaire à vous de vous mettre sur les rangs. C'est bien un bon parti, ma foi. Qu'en dites-vous? Que je l'épouse, dit Dobbin, tout rouge et précipitant ses paroles. Si vous aimez le changement, mademoiselle, croyez-vous qu'elle vous ressemble? Moquez-vous de cette angélique jeune fille. Elle ne peut se défendre. Son malheur et sa peine doivent suffire, en effet, pour la livrer à vos railleries. Courage, Anne, vous êtes le bel esprit de la famille, et vos sottises y font floresse. Je vous ai déjà dit que nous n'étions pas au régiment, reprit Miss Anne. Au régiment, morbleu, je voudrais bien entendre quelqu'un parler comme vous au régiment, s'écria le digne Dobbin, avec un enthousiasme chevaleresque. Oui, je voudrais, morbleu, qu'un homme s'avisât de dire quelque chose contre elle. Mais les hommes ne bavardent pas de cette façon, Anne. Il n'y a que des femmes pour s'ameuter de la sorte, pour confondre ainsi leurs hurlements et leurs clabaudages. Eh bien, vous allez vous mettre à pleurer pour cela. Vous n'êtes que des oies. Et William Dobbin, s'apercevant que les yeux rouges de Miss Anne commençaient comme à l'ordinaire à se gonfler de larmes, dit aussitôt « Eh bien, vous n'êtes pas des oies, vous êtes des cygnes, ou tout ce que vous voudrez. Seulement, laissez tranquille Miss Sedley. » Rien ne peut se comparer à l'ardeur chevaleresque de William au sujet de cette petite effrontée coquette, disaient entre elles la mère et les sœurs de Dobbin. Elle redoutait fort que son mariage avec Osborne n'ayant pas de suite, elle ne trouva sur le champ un autre admirateur dans le capitaine. Ces honnêtes femmes réglaient sans doute leurs prévisions d'après leur propre expérience, ou plutôt, car les occasions de mariage et de coquetterie n'étaient pas fort communes pour elles, selon leur manière de comprendre le bien et le mal, le juste et l'injuste. « Il est fort heureux, ma chère maman, disaient ces jeunes filles, que le régiment ait reçu son ordre de départ. Au moins voilà un danger auquel échappe notre frère. » Le régiment était en effet désigné pour partir, et c'est ainsi que l'empereur des Français se trouve mêlé à notre histoire, qui, sans l'auguste intervention de ce personnage muet, n'aurait point mérité les honneurs de la publicité. C'était lui qui avait causé la ruine des Bourbons et celle de M. John Sedley. C'était lui dont l'arrivée à Paris faisait en France reprendre les armes pour le soutenir et dans toute l'Europe pour le chasser. Pendant que la nation française et l'armée lui juraient fidélité autour des aigles, dans le champ de Mai, les quatre plus puissantes armées de l'Europe se réunissaient pour faire la chasse à l'aigle, et l'une d'elles, l'armée anglaise, comptait dans ses rangs deux de nos héros, le capitaine Dobbin et le capitaine Osborne. La nouvelle de l'évasion de Napoléon et de son débarquement en France fut accueillie par le valeureux Yem avec cette joie belliqueuse et enthousiaste que comprendront sans peine tous ceux qui connaissent ce fameux régiment. Depuis le colonel jusqu'au moindre tambour, chacun était rempli d'ambition, d'espoir et d'ardeur patriotique. Chacun savait gré à l'empereur des Français d'être ainsi venu troubler la paix de l'Europe comme d'une faveur toute particulière. Il arrivait enfin ce temps si désiré par le Yem, où il pourrait aller montrer à ses compagnons d'armes qu'il se comportait aussi bien sur le champ de bataille que les vétérans de la péninsule, et qu'il n'avait point perdu sa valeur guerrière dans les Antilles au moment des ravages de la fièvre jaune. Stable et Spooney pensaient obtenir une compagnie sans avoir besoin de l'acheter. Avant la fin de la campagne, dont elle était bien résolue à partager les fatigues, Mrs. la Major O'Dowd espérait signer Mrs. la Colonel O'Dowd, chevalier du bain. Nos deux amis, Dobbin et Osborne, partageaient, chacun à sa manière, la fièvre générale. M. Dobbin, avec beaucoup de calme, et M. Osborne, avec une exaltation bruyante, se montraient décidés à faire leur devoir et à obtenir leur part de gloire et de distinction. La commotion que ressentit le pays à cette nouvelle avait quelque chose de si national que toute question d'intérêt privé disparut. C'est sans doute pour ce motif que George Osborne, tout récemment promu à son nouveau grade et songeant déjà à un nouvel avancement, ne prit pas garde à d'autres événements qui eussent sans doute attiré son attention dans des temps plus calmes. La catastrophe du bon M. Sedley ne l'attrista pas outre mesure. Il essayait son nouvel uniforme qui lui allait à merveille le jour où se tint la première réunion des créanciers de l'infortuné vieillard. Son père lui avait dit que la frauduleuse et abominable conduite de ce banqueroutier le forçait à lui renouveler ses injonctions au sujet d'Amelia et que c'en était fini pour toujours des projets de mariage. Il lui compta ce soir-là une somme assez ronde pour payer son uniforme et ses épaulettes qui lui donnaient si bonne mine. Ce jeune homme, peut-être trop libéral, faisait toujours bon accueil à l'argent et il accepta sans plus de cérémonie la généreuse gratification de son père. Les affiches de vente tapissaient déjà la maison Sedley, où il avait passé tant de journées heureuses. Il put les apercevoir en sortant le soir de chez son père pour se rendre chez le vieux Slaughter, où il descendait quand il venait à la ville. La lune les éclairait de ses pâles rayons. Cette maison, où avait régné jadis le bien-être, était fermée pour Amelia et ses parents. Où cette malheureuse famille avait-elle trouvé un asile? La pensée de leur désastre fit sur lui une impression profonde. Il fut très sombre ce soir-là au café de Slaughter. Il but beaucoup et ses camarades en firent la remarque. Tobin étant survenu, voulut l'empêcher de boire, mais Osborne lui dit qu'il buvait ainsi à cause de son excessive tristesse. Son ami le pressa alors de maladroites questions et lui demanda s'il avait des nouvelles. Osborne refusa d'entrer dans aucun détail, disant seulement qu'il avait l'esprit tout bouleversé et qu'il était bien malheureux. 3 jours après, Tobin vint voir Osborne dans sa chambre à la caserne. Il avait la tête appuyée sur la table. Des papiers étaient jetés pêle-mêle autour de lui. Le jeune capitaine semblait en proie au plus grand abattement. « Elle m'a renvoyé tout ce que je lui ai donné, tous ses petits souvenirs. Voyez un peu. » Il lui montra du doigt un paquet de lettres d'une écriture bien connue du capitaine Tobin, et puis plusieurs petits objets jetés au hasard, une bague, un couteau d'argent qu'il avait acheté pour elle à une foire quand ils étaient enfants, une chaîne d'or et un médaillon renfermant de ses cheveux. « Tout est là, disait-il d'une voix traînante et éteinte. Tenez cette lettre, Will, vous pouvez lire si vous voulez. » Il lui présentait en même temps une lettre contenant les lignes suivantes. « D'après la volonté de mon père, je vous renvoie tous ces présents. Je vous renvoie tous les présents que vous m'avez faits dans des temps plus heureux. Cette lettre est la dernière que je vous écris. Vous sentez, je pense, autant que moi, le coup qui vient de nous frapper. Nos infortunes rendent impossible l'union projetée entre nous. Désormais vous êtes libre, je vous rends votre parole. Vous ne partagerez point, j'en suis sûr, à notre endroit, les cruels soupçons de M. Osborne qui viennent s'ajouter à notre malheur comme un surcroît d'affliction. Adieu, je prie le ciel de me donner la force de supporter cette épreuve et toutes les autres qu'il lui plaira de m'envoyer. Puisse-t-il faire descendre sur vous ses bénédictions. Je jouerai souvent sur le piano, sur votre piano. À cet envoi, j'ai reconnu la délicatesse de votre cœur. Amelia. Tobin avait l'âme très sensible. Les pleurs et les sanglots des femmes et des enfants faisaient sur lui une très vive impression. L'idée d'Amelia dans la solitude de sa douleur mettait à la torture cette âme dévouée. Il y avait chez lui un luxe d'émotions peut-être excessif pour un homme. Il jurait qu'Amelia était un ange et qu'Osborne devait lui conserver son cœur pour toujours. Osborne avait lui aussi fait un retour sur leurs deux existences si unies. Cette jeune fille lui apparaissait enfin telle qu'il l'avait vue depuis son enfance, douce, innocente, charmante dans sa simplicité, passionnée et tendre avec toute la franchise de son âme. Quelle affliction de perdre un pareil trésor, de n'avoir pas su apprécier son bonheur alors qu'il en jouissait. 1000 scènes de famille se pressaient maintenant dans son esprit, et au milieu de tous ses souvenirs, il la revoyait toujours bonne et belle. Le remords saisissait son âme et la honte lui montait au front quand il se rappelait son égoïsme et son indifférence, contrastant avec cette ravissante candeur. Les espérances de gloire, les chances de la guerre, le monde entier avait disparu pour un moment, et les deux amis ne parlaient plus que d'elle et d'elle seule. « Où sont-ils ? » demanda Osborne après un long entretien, et non toutefois sans éprouver quelque honte à la pensée de son peu d'empressement à suivre sa fiancée. « Où sont-ils ? Il n'y a point d'adresse sur ce billet. » Tobin savait l'adresse, lui. Non content d'envoyer le piano, il avait écrit une lettre à Mrs. Sedley pour lui demander la permission d'aller la voir. Et il l'avait vue la veille, ainsi qu'Amelia, avant son retour à Chatham. Bien plus, c'était lui qui avait apporté cette lettre d'adieu, ce paquet qui causait aux deux amis une si vive émotion. L'excellent garçon avait reçu de Mrs. Sedley le meilleur accueil. Elle avait été fort touchée de l'arrivée du piano, qui, suivant ses conjectures, était envoyé par George comme marque de dévouement et d'amitié. Le capitaine Tobin ne chercha point à détromper cette honnête femme, mais il écouta tous ses malheurs, toutes ses plaintes, avec la plus vive sympathie. Il lui expliqua la part qu'il prenait à ses peines et à ses privations. D'accord avec elle, il blâma la dureté de M. Osborne pour son ancien bienfaiteur. Puis, après avoir reçu les épanchements de son cœur, les confidences de ses chagrins, Tobin se sentit assez de courage pour demander à voir Amelia, retirée comme d'ordinaire dans sa chambre. Sa mère amena la pauvre fille toute tremblante. On eût dit un fantôme. Sur son visage, le désespoir se peignait en traits si éloquents que l'honnête Tobin frissonna à son aspect et lut les plus sinistres présages sur cette figure décolorée et immobile. Au bout d'une ou deux minutes, elle lui remit le paquet et lui dit « Voici pour le capitaine Osborne, s'il vous plaît. J'espère qu'il va bien. C'est très bon à vous d'être venu nous voir. Nous aimons beaucoup notre nouvelle habitation. Je crois, maman, que je puis remonter, car je me sens un peu faible. » La pauvre enfant fit un salut accompagné d'un sourire et se retira. La mère, en la reconduisant à sa chambre, jeta vers Dobbin un regard désolé. Le pauvre garçon se sentait très ému. Il éprouvait déjà pour cette jeune fille une vive tendresse, car lorsqu'il se retira, son âme était en proie à la douleur, à la compassion, à la crainte, comme s'il eût été coupable, comme si un remords poignant se fût glissé dans son âme. Osborne, apprenant que son ami avait vu Amelia, lui fit les questions les plus pressantes et les plus inquiètes au sujet de la pauvre enfant. Comment allait-elle? Comment l'avait-il trouvée? Que disait-elle? Alors son ami lui prit la main et, le regardant en face, « Georges, elle se meurt, » dit-il sans pouvoir ajouter un mot de plus. Dans la petite maison où la famille Sedley avait trouvé asile, il y avait une bonne grosse fille irlandaise qui était là pour tout faire. Cette fille tentait en vain, depuis plusieurs jours, de donner aide et consolation à Amelia. Amy était trop triste pour lui répondre, ou même pour s'apercevoir de ses soins prévenants. 4 heures s'étaient écoulées depuis la conversation que nous venons de rapporter entre Dobbin et Osborne, lorsque cette servante entra dans la chambre où Amelia était silencieuse comme à son ordinaire et pensait à ses lettres, ses chers trésors. Cette fille, toute souriante, et avec un air espiègle et joyeux, fit ses efforts pour attirer l'attention de la pauvre Amy sans pouvoir y parvenir. « Miss Amy, » dit-elle. « Me voilà, » dit Amy sans se détourner. « Un message, » reprit la servante. « C'est quelque chose, quelqu'un, enfin, voilà une nouvelle lettre pour vous. Ne lisez donc plus les vieilles. » Elle lui remit alors une lettre qu'Amy prit et lut. « Il faut absolument que je vous voie, » disait la lettre. « Cher Amy, cher amour, chère femme, ne me repoussez pas. » Sa mère et Georges étaient sur le seuil de la porte, attendant qu'elle eût terminé la lecture de la lettre.